Donc, oui, je crois qu'il y a déjà une question. Je crois.
Moi, je voulais savoir si les vagues, c'était un événement aléatoire ou si c'était un chaotique.
Qui prend la question?
Oui, c'est une bonne question. En fait, les vagues sont quand même essentiellement produites par le vent. Hein, donc, et le vent étant un écoulement turbulent, la plupart du temps, dès que le vent est un peu fort, on a des phénomènes qui sont largement imprévisibles. Alors, ceci dit, il faut quand même nuancer à nouveau, parce que les vagues, c'est assez périodique. Hein, quand vous baignez, hein, vous avez des vagues à peu près toutes les 10 secondes, 15 secondes. Mais en fait, derrière cette périodicité, en fait, vous êtes quand même incapable de dire si exactement dans 3 minutes ou 3 minutes 5, vous allez avoir une vague plus ou moins haute. Donc, vous avez après des effets enfin, des perturbations non linéaires hein, qui compliquent les choses. Hein. Et ça, c'est essentiellement dû quand même au forçage, hein, qui est le vent, hein, qui est en fait turbulent. Hein, mais,
Je voulais savoir si les phénomènes de résonance, c'était des systèmes chaotiques ou pas. Parce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'ils vont se déclencher, mais on ne sait pas forcément ce qui va en découle. Ouais.
Peut-être deux, oui. Un exemple.
Ouais, il y a un pont aux États-Unis, il y a quoi, c'était quoi, il y a quelques années, enfin il y a quand même assez longtemps, qui a, avec le vent, a commencé à onduler et a fini par s'effondrer.
Alors ça, je n'appellerais pas ça directement le chaos, parce qu'en fait, simplement, on sait qu'un système, si on l'excite à telle fréquence, ces oscillations vont s'amplifier. C'est des systèmes, tout ce qui est de plus prédictif. Et il se trouve que là, les soldats qui marchaient, ils ont marché à cadence à cette fréquence-là. Et donc ça a amplifié les vibrations du pont. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je mettrais directement dans le phénomène de chaos. Ça, c'est au contraire, dans le domaine de physique linéaire. Je dirais qu'on maîtrise le plus. On cite souvent la légende de Tesla qui a mis un petit à une tour quelconque, je ne sais plus où, ou un bâtiment en construction. Il a pris un petit oscillateur, il a branché sur le bâtiment, il avait bien ajusté la fréquence et il a mis tout le bâtiment en tremblement. Les ouvriers se sont enfuis, etc. Mais c'est juste, on sait qu'un système a certaines fréquences de résonance. Si on l'excite exactement à cette fréquence-là, les oscillations vont s'amplifier au fur et à mesure.
Est-ce que quelqu'un voudrait bien nous expliquer linéaire et non linéaire, s'il vous plaît?
Linéaire, ça veut dire, de façon très simple, ça veut dire que les effets sont proportionnels aux causes. Si vous doublez les causes, vous doublez les effets. Les non linéaires, c'est quand c'est pas ça. Non, il y a des phénomènes non linéaires dans lesquels on fait moins, si on double les causes, on fait moins que doubler, ou on fait plus. Il y a toutes sortes de non linéarités.
Et la particularité des systèmes linéaires, c'est qu'ils ont été très très bien décrits en fait par les mathématiques. C'est surtout pour ça qu'on s'inquiète de savoir si c'est linéaire.
Voilà, oui. Ils sont intégralement connus. Ils sont parfaitement connus hein, pour l'essentiel, hein, mais. Mais le fait d'introduire une petite non-linéarité, comme on dit dans le jargon mathématique, hein, donc un terme supplémentaire non-linéaire, tout simplement un produit, XY, hein, quelque chose comme ça, hein, ça peut profondément perturber un système et faire apparaître justement des zones de. Oui, le perturber de manière significative, effectivement. Pas forcément rendre les choses imprédictibles d'ailleurs, hein, c'est pas à confondre avec le chaos, mais changer profondément la nature des choses. Et j'ai envie de dire que la nature est certainement essentiellement non linéaire, hein, d'où la difficulté. Puis en même temps, heureusement, parce que sinon on serait tous au chômage là actuellement.
Je crois qu'on peut peut-être donner un exemple. Je répondrai à Thérèse Plasson qui demandait des exemples concrets. C'est par exemple un effet laser, donc. Tout le monde a vu un laser, au moins dans un supermarché, pour lire les codes-barres et autres. C'est un appareil non linéaire, donc la réponse optique ne varie pas linéairement avec la puissance électrique que l'on a mise à l'entrée, en tout cas quand on démarre, mais c'est tout à fait prédictible. Hein. Non-linéarité ne veut pas dire chaos. Par contre, des lasers qui fonctionnent mal, au démarrage, s'ils n'accrochent pas très très bien, on a un comportement chaotique, c'est-à-dire qu'on a des petits éclairs lumineux qu'on n'arrive pratiquement pas à prédire. Donc là, on a à la fois un phénomène qui est non linéaire, mais tout à fait prédictible. Et un laser peut fonctionner de façon merveilleusement constante. Et puis, dans d'autres cas, bon, il donne vraiment des éclairs complètement aléatoires.
Et juste pour rajouter là-dessus, parfois on peut utiliser le fait que le laser devient chaotique pour l'utiliser, pour mesurer quelque chose. Typiquement, vous n'arrivez pas à voir dans le lait c'est un milieu extrêmement turbide, mais il se trouve qu'il y a des gens chez nous qui font un instrument, ils ont un laser très sensible, ils balancent des photons dans le lait, et si le photon rencontre une pièce de monnaie qui est dans le lait que nous, on ne voit pas à l'œil, il y a de temps en temps des photons qui reviennent, qui mettent le laser complètement en système chaotique. Et juste en écoutant combien de fois le laser devient chaotique, on arrive à reconstruire l'image de la pièce qui est sous le lait, par exemple. Ça, c'est une des applications typiques d'utiliser le chaos.
Je voudrais juste être sûr d'avoir bien compris. Non linéaire ne signifie pas nécessairement chaotique, mais chaotique est nécessairement non linéaire.
Oui, je ne connais pas de système chaotique linéaire. Enfin, je ne connais pas. À un moment donné, c'est devenu c'était ce qu'on appelait le chaos quantique. On avait l'impression qu'on n'a que des systèmes linéaires et pourtant ça pouvait présenter du chaos. Mais ça, c'est on mélange deux choses, ça veut dire que le système quantique, en plus, par-dessus, on ajoute quelque chose.
Oui, alors le coup du laser là, avec lequel où on utilise le chaos pour déterminer la pièce de monnaie, voilà, c'est des exemples comme ça que j'aimerais entendre dire dans le domaine de la physique, à part s'amuser à déterminer s'il y a une pièce de monnaie dans le verre de lait. Est-ce qu'il y a d'autres applications où ça s'exploite? Est-ce qu'actuellement, il y a déjà d'autres applications ou d'autres recherches où ça serait exploité? Parce que là, enfin, je ne sais pas, il y a eu une thèse là-dessus sur comment on détermine s'il y a une pièce de monnaie dans le lait avec un...
Je peux insister... En fait, hein, d'une manière un peu naïve peut-être, est-ce que la turbulence est un phénomène chaotique?
Disons que dans la dénomination des systèmes chaotiques des années, je dirais 70-80, où on avait un petit nombre de degrés de liberté, on est bien au-delà, on a un très grand nombre de degrés de liberté. Mais c'est un système chaotique, c'est-à-dire c'est un système qu'on ne peut pas prédire. Donc on peut prédire jusqu'à un certain temps, et puis au bout d'un moment, on perd la trajectoire. Hein. Donc c'est typiquement la météo. Hein. C'est pour ça que la météo est non prédicible. Hein.
C'est... Comme la demande est sur d'autres exemples, moi j'ai pris l'exemple peut-être faux du robinet. Quand on l'ouvre, l'écoulement est laminaire. Quand on l'ouvre encore plus, ça se met à turbuler. Est-ce que c'est chaotique?
Oui, c'est chaotique dans ce sens-là, bien sûr, oui, évidemment.
Et là, typiquement, pour dire les applications de ce genre de choses, les gens qui font les avions, ils savent qu'en travaillant un tout petit peu la forme des ailes pour faire des écoulements qui sont un peu plus laminaires, pour des vitesses un peu plus grandes, ils gagnent des souffles faramineuses sur la consommation d'essence de l'avion, par exemple. Ce n'est pas par hasard qu'on a dépensé des sommes folles pour la compréhension de la turbulence.
Qui n'est toujours pas comprise.
En fait, il y en a absolument partout, je crois, hein, des systèmes chaotiques. Enfin, des applications, il y en a. Ben, tout ce qu'on a dit, ce sont des systèmes chaotiques. Là, je crois que la question, c'est que nous apporte la théorie du chaos sur la compréhension de ces systèmes, plutôt, je pense. Parce que finalement, on a de la chance quand on tombe sur un système qui n'est pas chaotique. Dans la nature, c'est presque... Non. Je ne sais pas, enfin, c'est une question que je pose.
Non, mais ça revient à l'horizon de prédictabilité. Si on le comprend un peu mieux, on peut augmenter un peu notre horizon de prédictabilité et gagner des sous sur la turbulence des avions, enfin, derrière, et consommer moins d'essence. Une application très pratique de ça.
Pour prendre l'exemple de la turbulence, parce que bon, c'est tiré typiquement donc de la mécanique des fluides. Hein. La plupart des écoulements, enfin les écoulements simples, qu'on appelle des écoulements laminaires, sont des écoulements parfaitement prédicibles. Hein. Si vous faites couler de l'eau lentement, ou un ruisseau qui coule lentement, vous êtes capable de prédire exactement la trajectoire d'un point de votre ruisseau. Hein, c'est pas difficile. Les équations sont tout à fait simples à intégrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes mêmes équations quand vous vous mettez à des vitesses beaucoup plus grandes. Donc, vous allez générer un écoulement turbulent. Donc, on a les mêmes équations, mais on n'a pas tout à fait les mêmes conditions d'utilisation de ces équations-là. Et là, on tombe dans des régimes turbulents qui sont non prédicibles. Donc, en fait, c'est une compétition entre ce qu'on appelle les effets non linéaires, hein, qui génèrent effectivement du chaos, de la non-prédicibilité, et les effets de dissipation qui, au contraire, atténuent ces effets de non-prédicibilité. Donc, quand on exagère les effets non linéaires, donc effectivement dans les écoulements turbulents, on a des choses compliquées. Quand au contraire, on a des choses où la dissipation est forte, dans ce qu'on ne va pas trop vite, par exemple, hein, où les écoulements sont suffisamment lents, et on n'a pas du tout de chaos. Donc, on a au départ les mêmes équations.
C'est sans doute pour cela qu'on a considéré que les embouteillages pouvaient être expliqués par une description chaotique. Puisque si la circulation est laminaire, elle passe, elle roule, et on peut prédire à quel moment la voiture sera à tel endroit ou à un autre. Et s'il y a de la turbulence, je dis vraiment n'importe quoi, parce que je ne suis pas du tout sûre qu'on peut passer de ça à ça, à ce moment-là, effectivement, il y a des moments où il y a des embouteillages qui, eux, peuvent être imprévisibles. On ne peut pas savoir à l'avance à quel moment l'embouteillage va se passer et pendant combien de temps il va prendre avant de se déliter. Mais c'est précisément ces exemples-là que personnellement je dénonce, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un modèle mathématique qui peut marcher très bien pour décrire des systèmes physiques ou bien même des systèmes en biologie sans doute, mais peut-être que ce serait intéressant qu'on vous pose cette question sur la biologie. Et puis ensuite, on les transvase sur d'autres formes de comportement, uniquement par analogie. Et la question, une des très grosses questions en termes de méthode, c'est de savoir si l'analogie seule suffit, la description. En d'autres termes, si le même modèle décrit deux genres de phénomènes qui sont radicalement différents, est-ce que cela suffit pour dire que ces deux phénomènes ont des caractéristiques en commun? Et ça, c'est absolument pas évident. Mais ça, c'est aussi le danger de la transposition des lois de la nature vers les sciences humaines.
Dans un autre domaine, je voulais savoir jusqu'à quand peut-on prédire l'évolution de la bourse, des marchés financiers. Je vais prendre un petit exemple. En octobre dernier, je tombais par hasard sur BFM Business, sur un économiste qui nous annonçait avant la fin de l'année 2013, on va avoir une nouvelle petite crise. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne l'ai pas senti venir et je ne l'ai pas senti passer non plus. Alors, du coup, a-t-on les moyens d'anticiper sur la faillite d'une banque comme Lehman Brothers, par exemple, et a-t-on les moyens d'arrêter certains traders un peu trop spéculateurs, si vous voyez ce que je veux dire?
Je peux vous répondre tout de suite. Oui, on a les moyens, mais ce n'est certainement pas les lois de la physique qui vous le donnent. Donc, c'est les lois de la peur et de la cupidité. Ça fonctionne très bien en bourse. Et donc, c'est vraiment humain, très humain. Et puis, c'est les lois et les réglementations qu'on a du mal à appliquer d'un autre côté. Mais on a parlé des mathématiques au tout début de cette séance, mais vous n'étiez pas encore là. Ça n'a pas l'air de...
Il faut voir les phénomènes. On peut toujours imaginer des lois, essayer de décrire un petit peu ce genre de choses, mais bon, la validité, personnellement, j'ai des gros doutes. Hein. C'est quand même des phénomènes complexes. On a beaucoup d'irrationnels aussi qui rentrent en compte. Hein.
Je crois qu'il faut nuancer. Il y a quand même des lois qui sont de plus en plus... ça reste des lois ad hoc, en l'occurrence. Hein, c'est des lois extrêmement empiriques qui fonctionnent de mieux en mieux. Mais le problème, c'est que de toute façon, on est dans un domaine humain, indéniablement, et donc avec des facteurs déclenchants qui sont bien sûr inconnus. Donc une causalité pas maîtrisée.
Et puis l'autre phénomène compliqué dans l'économie, c'est qu'au fur et à mesure qu'on découvre des lois, il va y avoir des gens qui vont exploiter ces lois pour gagner encore en bourse. Donc, ils vont remodifier ces lois-là. Donc, c'est un phénomène qui devient beaucoup plus compliqué à ce niveau-là.
Depuis le début, on parle de théorie du carreau, mais quel est l'énoncé de cette théorie? Enfin, une théorie, c'est un énoncé qui défend une idée, mais quelle est cette idée?
Cette question historiquement, les choses ont commencé, donc comme il a été dit, avec Poincaré, qui a découvert que avec trois corps uniquement et la loi de la gravitation de Newton, qui est à 100% connue, on ne peut pas prédire l'évolution du système. Donc ça, c'est, ça s'appelle le problème des trois corps. OK ? À partir de ce, ensuite, ça s'est un peu calmé, c'est entré en mathématiques, et là, on s'est aperçu avec le temps qu'il existait des systèmes dans lesquels, à mesure qu'on avançait, le calcul se mettait à devenir de plus en plus imprévisible pour des raisons diverses, extrêmement diverses. Et c'est là où il y a une espèce de flou artistique sur la notion de chaos. La notion de chaos, ensuite, est devenue très à la mode à partir des expériences de Conrad, de Lorenz, qui n'est pas Conrad d'ailleurs, c'est l'autre Lorenz, comment il s'appelle ? Edward Lorenz, sur ce qu'on a appelé ensuite l'effet papillon, c'est-à-dire sur l'idée qu'une simple perturbation, une toute petite perturbation à un endroit, peut se propager et augmenter d'une manière à atteindre des effets qui sont imprévisibles au début. Donc là, on était aussi dans le cas un peu de la météo. Et d'ailleurs, Lorenz lui-même était un météorologiste. Quand Lorenz a fait ses expériences et ses découvertes, le chaos est devenu très à la mode. Et donc, il y a eu un livre qui a été publié qui s'appelle « La théorie du chaos » d'un journaliste scientifique. C'est un très joli livre qui date des années 80. Le journaliste s'appelle Gleick. Et donc, il écrit un livre presque comme un roman pour raconter comment, petit à petit, cette histoire du chaos s'est développée. Mais la notion de théorie du chaos s'est mise à pris forme, si vous voulez, à ce moment-là. On s'est mis à parler de théorie du chaos. Mais est-ce qu'il y a vraiment une seule théorie du chaos ? Est-ce qu'il n'y a pas des causes différentes à des chaos différents, etc., etc. ? Tout ça reste encore dans le domaine de la recherche. On n'a pas une théorie du chaos comme on a eu la théorie de la relativité, par exemple, ou des choses aussi claires et distinctes d'un seul coup.
Non, pas du tout. Il y a une branche des mathématiques qui s'appelle les systèmes dynamiques,
oui, voilà.
Auquel Poincaré a donné... une contribution qu'on connaît, hein, en particulier avec justement le problème des trois corps et des choses comme ça. Donc c'est une théorie qui englobe qui peut s'appliquer à plein de choses, hein, l'évolution de population en interaction, des systèmes mécaniques, enfin énormément de choses. Hein. Donc alors les mathématiciens vont s'emparer d'un système d'équations différentielles ou d'un système de je ne sais quoi, enfin des choses qui rentrent dans ce cadre-là. Et ensuite il va essayer d'en étudier les propriétés. Alors par exemple on sait que si on a un système dynamique à 2 degrés de liberté, on va dire en dimension 2, hein, où les trajectoires restent, par exemple, sur la table, là, comme ça, donc bornées, comme on dit, on sait décrire exactement ce qui va se passer. Hein, on sait dire il y aura éventuellement un point attracteur, il y aura éventuellement un cycle limite, hein, c'est-à-dire une trajectoire, la trajectoire va s'approcher d'une trajectoire périodique, des choses comme ça. C'est parfaitement connu. Quand on augmente en dimension, alors là, il y a justement ces phénomènes de transition vers le chaos qui apparaissent, des choses comme ça. Et les mathématiciens vont essayer de tirer de ça des propriétés, des règles, des théorèmes, hein, essayer de comprendre les phénomènes qui sont là, les quantifier, et ainsi de suite. Alors ça rentre dans ce qu'on peut appeler la théorie du chaos. Mais c'est, disons que je vois ça plutôt moi, comme une partie de la théorie des systèmes dynamiques, hein, qui est quelque chose de très ancien. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça...
Il y a vraiment toute une faune... Hein. Des systèmes chaotiques, mais effectivement, les mathématiciens, dont Feigenbaum en particulier, ont décrit justement cette route vers le chaos en partant des systèmes laminaires, en les rendant de plus en plus instables, de plus en plus non linéaires. Et cette transition vers le chaos, quel que soit le système, obéit à des lois qu'on retrouve systématiquement. Et donc, il y a vraiment une théorie derrière, hein, qu'on appelle effectivement une route, donc avec des bifurcations successives. Donc, à nouveau, quelqu'un comme René Thom a pas mal contribué là-dessus. Donc là, effectivement, il y a une théorie, effectivement, qu'on peut vraiment qualifier de théorie, en l'occurrence.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une théorie mathématique qui a attiré l'attention dans la mesure où elle s'est retrouvée applicable dans des domaines extrêmement différents ? Et donc, on s'est dit qu'on a trouvé une unité fondamentale derrière la diversité des objets qu'on est en train d'étudier. C'est ça qui a fait le succès du chaos, en fait.
C'est le but des mathématiques, hein, quelque part. Hein,
J'ai cru comprendre que Poincaré avait démontré que... Pardon. que tout système thermodynamique revenait à son état initial au bout d'un temps fini. Est-ce que ça veut dire que tous les systèmes chaotiques... est-ce que c'est valable pour tous les systèmes chaotiques, en fait ?
Alors, ce que vous dites, vous, c'est probablement pas tout à fait ce qu'on appelle le chaos. C'est-à-dire qu'on a un système de dynamique particulière où on sait que, par exemple, toutes les molécules de cette pièce, toutes les molécules d'air de cette pièce, ils ont une certaine chance de se retrouver en un coin de là-bas. Mais les temps qu'on peut mettre pour ce genre de choses, c'est astronomiquement loin. Donc, même si on avait un système parfaitement classique, ce qui n'est pas le cas, je vais venir là-dessus, on sait qu'évidemment, au bout d'un temps très très long, le temps de beaucoup plus long que la taille de l'univers, ça reviendra à son état initial, ça dépend du nombre de particules, mais il se trouve qu'en plus, nos systèmes à la base, microscopiquement, ne sont pas classiques. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau fondamental, la mécanique quantique intervient, qui fait que même si c'était parfaitement vrai pour les systèmes classiques, ce n'est pas vrai pour le monde réel dans lequel on vit.
Et donc on peut en conclure qu'on ne se retrouvera pas d'ici quelques milliards ou éons d'années dans la même pièce. Désolé.
Si l'univers était un système fermé et si on avait un temps infini, alors inévitablement, toutes les molécules, toutes les particules qui contribuent à fabriquer l'univers vont se retrouver inévitablement au même endroit et donc vont réenclencher un cycle, etc. etc. Et pour Nietzsche, ça signifie que si on va revenir dans cette salle, dans des temps... Voilà. Il nous reste à parier là-dessus, par contre.
Non, le mathématicien dirait plutôt qu'on va se retrouver arbitrairement proche de la position de départ, mais pas forcément pile. Hein.
Tu ne seras plus là, Christian.
Ouais. Notre question. Incidemment, tout à l'heure, vous avez parlé de biologie. Et je pense que le cancer, c'est un chaos. Non.
La définition biologique du cancer, c'est qu'on est des organismes multicellulaires, des animaux. Le cancer, on ne peut pas le définir pour les plantes, par exemple. Mais pour les animaux, on a un plan de construction très fixe. Il faut absolument que mes bras, etc., soient positionnés tels quels. Et pour qu'un organisme multicellulaire tel que nous puisse exister, il faut que les cellules dans notre corps, ils n'aient pas le droit de se multiplier. Ils ont le droit de se multiplier que quand ils ont reçu 3 autorisations à travers 4 administrations différentes. Mais une cellule, comme ça, n'a pas le droit de se... Il y a énormément de checkpoints, de barrières pour qu'une cellule ne se divise pas. Il y a certaines cellules qui ont le droit de se diviser, les globules blancs, les cellules de la peau, des choses comme ça, l'esperme. Mais l'essentiel des cellules n'a pas le droit de se multiplier que s'il reçoit l'autorisation express. Les cellules cancéreuses, c'est les cellules qui arrivent, par accumulation de mutations, à dépasser ces barrières-là et se mettre à se multiplier. Donc, biologiquement, le cancer, c'est que ça. C'est des cellules qui ont réussi à traverser les multiples barrières qu'ils ont devant eux pour commencer à se multiplier de façon non contrôlée par l'organisme. Au niveau de la cellule, c'est quelque chose de tout à fait louable parce qu'une cellule, le vivant, c'est du vivant parce qu'il se duplique. C'est comme ça qu'on définit la vie. La vie, c'est un ensemble d'objets autoduplicatifs. Pour les organismes multicellulaires, il se trouve que la sélection naturelle trouve que ça peut être bénéfique dans certains cas, que certains renoncent à leur droit à la multiplication et que certaines cellules aient le droit de se multiplier. Pour nous, par exemple, les seules cellules qu'on va transmettre à la génération d'après, ce sont des cellules germinales. Aucune autre cellule de notre corps, bien qu'ils aient tous le même code génétique, n'a le droit de se propager à une génération d'après. Les cellules cancéreuses, c'est ceux qui se rebellent contre cette destinée et décident de se multiplier malgré ça. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse... Alors, c'est évident que c'est non prédictible, le cancer. On ne peut pas prédire quand est-ce qu'une cellule va devenir cancéreuse. Mais on est très, très, très loin de ce qu'on a pu... Habituellement, on mettrait dans le théorie de chaos. Oui. Alors... ce qui est sûr, c'est que si on revient... 3 milliards d'années en avant et qu'on recrée une Terre exactement comme la Terre actuelle à un chouïa près, on n'est absolument pas sûr qu'en refaisant l'horloge, on retrouve l'homme à son niveau actuel. L'apparition de l'homme n'était pas du tout quelque chose qui était gravé dans le marbre quand la Terre a démarré. Donc, dans ce sens-là, peut-être, mais Ce qui est sûr, c'est que l'évolution n'est pas prédictive. L'évolution darwinienne n'est pas prédictive.
Alors, voilà, c'est tout ce que nous avons dit. On a essayé de mettre entre le chaos et le hasard.
J'allais dire, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, parce que pas prédictif à ce niveau de biologique, je sais que tu travailles sur les bactéries ou les petites cellules et autres, ça veut dire quoi par rapport au chaos dont on parle jusqu'à présent?
À nouveau,
on est vraiment dans la notion de hasard. Donc.
Sémantiquement, sur distinguer le chaos qu'on a mis comme des systèmes non prédictifs avec un faible nombre de libertés par rapport aux systèmes qui sont imprédictifs parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là-dedans qu'on ne va pas pouvoir les suivre un par un, et que l'ensemble de cela provoquerait du hasard. Donc à nouveau, ça revient sur la question de départ, où est-ce qu'on met le chaos, où est-ce qu'on met le hasard. Mais essentiellement, les objets biologiques, on a un certain degré de... Prenons le cas des bactéries, puisqu'on parle des bactéries. La vie, c'est juste une usine biochimique, hein, c'est un ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent à l'intérieur d'une membrane. Et on pense que nous, on est trop compliqué pour essayer de faire quelque chose avec des organismes multicellulaires à 10 puissance 14 cellules, mais quand on regarde une bactérie, on avait l'impression qu'une bactérie, quand même, ça doit être assez prédictible. Ça veut dire que si on prépare 100 bactéries qui ont exactement le même génome, parce qu'ils ont tous les clones les uns des autres, et qu'on les met dans exactement le même environnement, est-ce que tous vont répondre de la même façon? Il y a encore 20 ans, la réponse était oui. Ou 30 ans, peut-être. On était sûr que ces objets, ces petites usines chimiques allaient tous répondre de la même façon. Depuis 30 ans, on sait que non, ce n'est pas vrai, qu'ils peuvent avoir des réponses très, très variées. Et c'est ça qu'on appelle l'individualité non génétique. Mais à nouveau, on est loin du domaine de chaos ou du chaos déterministe, parce que même ces petites usines biochimiques, ils ont un nombre folle de molécules qui sont en interaction complexe qu'on connaît plus ou moins bien. Et donc, on est là plus du domaine du hasard de base que du domaine de chaos.
Combien de molécules y a-t-il dans une bactérie en moyenne?
Alors, je ne peux pas faire une estimation directe de ça, mais par exemple, je peux donner un nombre de certaines protéines qui sont présentes, par exemple, ou de molécules. L'ADN est présent en gros à une copie. Les molécules, l'ADN, c'est juste un dictionnaire, hein. Enfin, c'est une sorte de recette. Et certaines protéines qui sont construites à partir de cette recette existent dans les bactéries à une dizaine d'exemplaires. Quand vous prenez une bouteille de lait, vous avez typiquement 10 puissance 23 molécules dans le lait. Donc là, il faut se dire, dans une bactérie, certaines protéines sont présentes à 10 ou 20 ou 30 copies, pas plus.
Quid des avancées technologiques? On entend souvent certains scientifiques qui ne sont peut-être pas les plus grands spécialistes, mais nous annoncer dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura trouvé tel ou tel remède médical, ou ça va se passer comme ça ou comme ça. Ce qui me fait toujours sourire, c'est que quand on regarde dans le passé, s'il y a bien une évolution technologique qu'on n'avait pas prévue, c'est la miniaturisation de l'informatique. Regardez tous les films de science-fiction des années 70, on nous sort des voitures volantes, des téléportateurs stellaires, ce que vous voulez, mais les ordinateurs, c'est toujours des énormes machines qui pèsent 3 tonnes. Donc les smartphones, cette miniaturisation, ces nanotechnologies, personne ne l'avait prévue. Alors du coup, le progrès est-il un système du chaos ?
Non, c'est bien sûr imprévisible. Mais parce que là, vous êtes déjà... L'évolution de l'être humain est quelque chose d'imprévisible. Donc, a fortiori, l'évolution des choses que l'être humain lui-même va produire. Sachant qu'en plus, il y a là-dedans énormément de concours de circonstances qui rendent ça, qui vont faire entrer ça plutôt dans la loi des grands nombres. De toutes les façons, il ne faut jamais, jamais se fier à la science-fiction pour savoir de quoi la technologie du futur est faite. La science-fiction, c'est de la littérature, pas de la science, et elle est de la littérature d'aujourd'hui. Donc, elle reproduit les fantasmes de son époque, et elle est très difficilement capable de produire la véritable science ou la technologie de demain. Star Trek, ça ne marche pas.
Hein ? Le prisonnier, la série TV, il y a énormément de fantasmes de l'époque,
série télé des années 70, non ?
Et ce qui est intéressant, c'est une série télé britannique des années 60. C'est reconnaissance oculaire pour l'ouverture des portes, les drones et tout ça pour la télésurveillance, ce sont toutes des technologies qui sont devenues réalité. Est-ce que du coup l'esprit humain ne serait pas nourri de ces fantasmes-là et du coup serait amené à être plus créatif par rapport à ça, justement par rapport à l'imagination qu'il a pu développer ?
Alors, ce qui est quand même intéressant, là, juste pour rebondir sur la science-fiction, c'est que un des grands ouvrages de science-fiction, qui s'appelle le cycle Fondation, quand même prédit, était tout à fait intéressant dans le débat de ce soir, puisque l'idée est qu'on peut prédire le futur de l'homme, sur des millénaires. Et donc le livre est basé sur la vision de quelqu'un qui a compris les lois des sciences humaines et qui est capable de prédire l'évolution de sa société sur effectivement plusieurs milliers d'années. Je pense qu'on est loin du compte. Enfin, est-ce qu'on y arrivera ? Je pense, certainement, on est dans un domaine effectivement tout à fait spéculatif. Mais c'est intéressant d'imaginer que effectivement les grands penseurs, les grands écrivains de science-fiction, aient pu penser effectivement à des systèmes parfaitement prédicibles de la société.
Il ne faut jamais oublier que dans un roman on n'y arrivera jamais. Que dans un roman de science-fiction, il y a un dieu, et ce dieu, c'est l'auteur. Et donc l'auteur, il plie les lois de la nature, et en particulier les lois de la physique, comme il veut. Donc aller au-delà de la vitesse de la lumière, descendre en dessous du quantique, descendre à moins 270 degrés, etc., etc. Toutes les limites que la science pose à mesure qu'elle avance, et plus elle avance, plus elle pose des limites, toutes ces limites-là, la science-fiction est parfaitement légitime pour les casser. Mais pas la science.
Alors, lorsqu'un médecin dit dans 20 ans, on aura tel vaccin, c'est que de la spéculation.
Ça dépend du vaccin, je dirais, mais très probablement, oui.
En fait, il y a de la science-fiction proche et de la science-fiction lointaine. Jules Verne, quand il écrivait Les sous-marins, c'était de la science-fiction proche. C'était de l'ordre de choses qu'on pouvait prédire qu'ils allaient arriver. Les médecins, pour certaines choses, probablement, ils sont dans la science-fiction proche. Je ne pourrais pas dire si on va trouver le vaccin contre le sida dans 20 ans ou non. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est deux genres de choses qui, notre science actuelle, permet de penser que c'est possible. Mais il y a des choses comme les trous dans l'espace-temps. Même si on sait que théoriquement, ce n'est pas impossible, on en est très, très loin de pouvoir penser un jour qu'on puisse faire des trous dans l'espace-temps.
Il est important pour un scientifique de se poser la question de comment va évoluer sa discipline et comment elle va évoluer, pas juste demain ni l'année prochaine, mais comment elle va évoluer sur la dizaine, vingtaine d'années. Donc ça, c'est des questions que tout scientifique se pose. Après, on va peut-être pas aller l'annoncer dans les médias, évidemment, ce qu'on pense, mais chacun a son idée sur la question, dans sa discipline.
Je vais passer à un tout autre sujet, mais je voudrais vous poser une question concernant le vivant, justement, parce qu'on nous a dit aussi, dans les choses que j'ai lues, le cœur fonctionne d'une manière chaotique. Est-ce qu'il y a des organes, donc cette fois à l'échelle macro, qui fonctionnent selon les règles du chaos ?
Le cœur fonctionne tout à fait normalement. C'est un système très périodique. Il se trouve qu'il y a certaines maladies dans lesquelles le cœur devient apériodique ou commence à fonctionner de façon absolument anormale. Et on s'est rendu compte, ça c'est... C'est justement un moment où on pensait que les applications de cœur peuvent être importantes. On s'est rendu compte qu'en donnant certains chocs avec certaines périodicités, on peut refaire revenir le cœur dans son battement normal. Mais le cœur, c'est quelque chose qui est heureusement tout à fait périodique et qui ne part pas.
Oui, alors je me permets de prendre la suite. Ça m'intéresse ce que vous dites parce que j'avais été récemment, il y a 2-3 ans, une conférence... C'est un psychiatre qui expliquait que pour le cerveau, et que pour le cerveau, je ne sais plus bien le détail, mais quand les phénomènes s'ordonnent, c'est l'annonce de la crise d'épilepsie. C'est l'inverse. Quand ça s'ordonne, c'est dangereux.
Alors effectivement, là, à nouveau, c'est pareil. C'est un endroit où on a essayé en mettant des électrodes sur la tête, en donnant des signaux d'une certaine façon, je ne connais pas le détail, mais effectivement de prévenir l'épilepsie en intervenant à ce niveau-là sur
ça. Le chaos, le système non linéaire chaotique, ça n'a rien à voir.
Je ne sais pas trop. À un moment, c'était très discuté dans les gens qui discutaient le chaos, mais ce n'est pas ma spécialité.
Bon, la mécanique quantique, ça s'enseigne. La physique, ça s'enseigne. La mécanique des fluides, tout ça, ça s'enseigne. La sismologie, ça s'enseigne. Est-ce que le chaos, ça s'enseigne ?
Bien sûr, on a des cours sur le chaos chez nous, à l'université, bien sûr. C'est une option, c'est pas le tronc commun.
Enfin, on enseigne de moins en moins. Enfin, c'était une théorie qui... Bon, maintenant, à niveau école doctorale, je dirais qu'on peut enseigner ça éventuellement. Par contre, un des...
De
M1, bon, d'accord. Par contre, un des produits, je dirais, de la théorie du chaos, qui sont les fractales, sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus enseignées, ça, effectivement. Bon, en particulier, moi, pour parler des sciences de la Terre, il y a énormément d'applications des fractales qui sont complètement en dehors, maintenant, des problèmes de dynamique chaotique, hein, mais qui sont présentes dans quasiment tous les domaines des sciences de la Terre et sont fondamentaux.
J'aurais une question aussi. En fait, c'est sur la mécanique quantique, parce que bon, ça touche a priori plus au hasard qu'au chaos. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'en mécanique quantique, il y a du vrai hasard. Quoi. C'est-à-dire pas des systèmes déterministes qui donnent des effets qui sont pseudo-aléatoires ou qui paraissent aléatoires en fait, pour nous qui ne les comprenons pas. Mais où vraiment on a 50% de chances d'avoir deux phénomènes et d'avoir qu'un phénomène se produise d'une façon ou d'une autre et qu'il n'y a pas de loi déterministe dessous. Mais apparemment, après ce qu'on dit ce soir, on peut aussi parfois voir du hasard et en fait n'avoir que du chaos, c'est-à-dire des lois tout à fait déterministes, mais être au-delà de l'horizon de prévisibilité. Donc dans le cas particulier de la physique quantique, est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait on est dans une physique déterministe à laquelle on n'a pas accès et donc on est bien dans un monde déterministe, c'est juste qu'on ne peut pas prévoir. Bon, je sais que c'est plus facile de poser la question que d'y répondre.
Non, ça c'est l'hypothèse de ce qu'on appelle les variables cachées. Est-ce qu'un électron, il n'y a pas une variable cachée à l'intérieur qui fait que ça devient... Il y a eu beaucoup de discussions, la majorité des gens ont abandonné l'histoire... Les variables cachées. Il y a encore une minorité des gens qui travaillent dessus. Ils ne sont pas excommuniés encore. Ils ne sont pas excommuniés. C'est tout à fait valable de travailler là-dessus. Mais la plupart des expériences qu'on a actuellement à nos dispositions mettent l'accent sur le fait que ce n'est pas la peine de penser en termes de variables cachées.
Et la théorie du chaos intervient pour le démontrer, ça ?
Non,
pas du
non,
tout.
Non.
C'est autre chose.
Non,
d'accord.
Non.
C'est juste pour revenir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure sur pour prédire en fait certaines formes de cancer ou pas. Et en fait, j'ai vu ça récemment qu'aux États-Unis, pour $99, en fait, on pouvait savoir son génome et que le génome pouvait justement prédire certaines maladies qu'on pouvait développer, dont.
Alors, c'est pas des prédictions, ce sont des prédispositions. C'est-à-dire qu'on sait que si on a le gène de P52. La probabilité d'avoir le cancer par rapport à quelqu'un qui n'a pas le 52, c'est par exemple, au lieu de passer de 10-4, on passe à 3-10-3, par exemple, en probabilité. Mais ce sont des prédispositions et ça va absolument, c'est pas prédictif. C'est pas parce que tout d'un coup, vous passez votre test à $100, je crois que c'est $200, mais bon. le dernier chiffre que j'avais, c'est $200. Ça dépend combien en fait, de gènes vous suivez, parce que pour l'instant, on ne va pas vous, pour $200, vous génotyper entièrement. On va prendre simplement un certain nombre de gènes, 1000 gènes, 2000 gènes, et au fur et à mesure, ça devient de moins en moins cher. Mais à nouveau, ça, c'est juste des prédispositions, et on est très, très, très loin, mais alors là, horriblement loin, de lire le génome et de dire quelque chose sur la personne. Parce que, il y a très, très peu de phénomènes qui sont dus à un seul gène. En général, c'est l'interaction entre énormément de gènes. La plupart de ces gènes, on ne les connaît pas. Et même si on les connaissait, leur interaction est tellement horriblement non linéaire, alors là, ça, on revient à ça, que c'est absolument pas prédictif. On peut juste faire des lois statistiques en disant, tiens, j'ai constaté que dans les gens qui ont le gène P53, la proportion de cancer de, par exemple, un type de cancer a été élevée de tel pourcentage. Mais ça ne veut rien dire sur une personne en particulier.
Parce que certains assureurs, justement, s'en servaient là-bas pour...
Oui, mais les assureurs, justement, les assureurs, eux, se basent sur la loi des grands nombres, sur les grandes probabilités. C'est exactement de la même façon pourquoi aux États-Unis, les femmes, ils ont une assurance deux fois moins chère que les hommes, parce qu'on sait que statistiquement, elles ont deux fois moins d'accidents que les hommes. Mais vous ne pouvez jamais rien dire sur une femme ou un homme en particulier.
D'accord. Okay. Merci.
Si je repars sur les prédispositions, on a tous entendu parler de l'opération des seins d'Angelina Jolie qui était soi-disant prédisposée à développer un certain cancer. Donc il y a quand même... je veux dire, il y a quand même des personnes qui décident quelque chose qui ne se base pas sur la loi des grands nombres. Donc c'est vraiment... c'est une prédiction individualiste.
Parce qu'on a beaucoup de mal à appréhender les probabilités. Ouais. C'est que quand on vous dit, tiens, vous avez ce cancer-là, il n'y a que 10% des gens qui y réchappent, tout d'un coup, vous êtes décomposé en disant, je vais mourir. On n'en sait rien. En tout cas, pour vous, vous ne savez pas si vous faites partie des 10%.
Je voudrais rajouter quelque chose sur ça, parce que là, on est dans des cultures médicales et qui sont des cultures médicales très différentes. Aux États-Unis, en effet, on encourage, par exemple, une femme qui a eu le cancer d'un sein, par précaution, de faire une mastectomie de l'autre sein et même éventuellement d'enlever aussi l'utérus, etc., etc. Donc ça, c'est dans la tradition américaine. Dans la tradition française, par exemple, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une élimination radicale. Elle n'est pas obligatoire aux États-Unis, mais on encourage vivement les femmes qui ont une prédisposition forte à un cancer, parce que c'est génétique, parce que les mamans, les tatas, tout le monde l'a eu, ou bien parce qu'il y a déjà eu un cancer, par exemple, au niveau de l'utérus ou des seins, d'enlever la totalité des organes qui peuvent être affectés. Et je sais que les médecins en France, parfois, sont très choqués de cette espèce de mutilation radicale en attendant que quelque chose arrive.
Je me demandais s'il y avait des applications ou des interprétations particulières en philosophie des sciences de la théorie du chaos.
On n'a pas arrêté de parler de ça pendant les années 80-90. C'est un peu passé de mode, mais parce qu'en général, parler du chaos est un peu passé de mode. Il reste si toujours le problème qui est très important en philosophie, qui est celui de l'adéquation du modèle au réel. En d'autres termes, qu'est-ce qui représente davantage la vérité ? Est-ce que c'est la loi, telle qu'elle est exprimée par le modèle mathématique, ou qui est elle aussi approximative, ou bien est-ce que c'est le réel lui-même qui est approximatif ? Et lequel des deux, on peut être plus platonicien et aller en direction de la loi, ou plus aristotélicien ou expérimentateur et aller plutôt dans la direction du réel. Et cette opposition entre le modèle et ce qu'il représente, en philosophie, c'est un problème qui date pratiquement de Platon et d'Aristote et qui a été vivifié par la modélisation. Il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, qui est le lien entre la modélisation et la simulation. Parce que comme vous avez vu à plusieurs reprises, l'informatique finalement a joué un très grand rôle dans le fait de découvrir les phénomènes chaotiques. Et cette informatique-là, elle amène aussi à utiliser le modèle pour simuler des phénomènes réels. Et la grande question est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'une simulation est une réelle représentation du réel qu'elle est supposée décrire. Et ça aussi, c'est un problème qui se pose effectivement en philosophie et aussi dans beaucoup de sciences. Est-ce qu'on peut dire, quand on a simulé un phénomène, qu'on le connaît ? La question est discutable.
Assez clair. Il ne faut pas confondre le modèle, la réalité.
Ni la simulation.
Ni la simulation, oui. Et je pense que les scientifiques font preuve d'une certaine prudence à ce niveau-là, a priori. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire quand, ne serait-ce que quand les gens, par exemple, annoncent les résultats d'un sondage, à 51%, on n'entend jamais derrière les probabilités.
J'ai entendu un jour, pour juste rebondir là-dessus, à un sondeur qu'on disait, pourquoi quand vous dites telle personne va avoir 22% des votes, vous ne donnez pas la barre d'incertitude. Et le sondeur, en toute franchise, c'était, je crois, sur BFM, ou sur quelque chose comme ça, qui a répondu, oui, mais si on donnait la barre d'incertitude, ça enlèverait toute crédibilité à nos sondages.
J'avais rencontré à plusieurs reprises des astrophysiciens qui se plaignaient de ça. Parce que pour beaucoup d'astrophysiciens, au lieu d'aller dans les observatoires qui sont au fin fond des Andes, etc., etc., et il faut réellement observer les étoiles, on prend l'information, les data qui se trouvent dans le domaine public et on crunch les ordinateurs, quoi. On fait fonctionner des simulations. Et le problème à ce moment-là, c'est est-ce que ce qu'on découvre est réellement de la science ? Et est-ce qu'il est possible de considérer ça comme de la science sans aller ensuite... vérifier cela avec une mesure et une observation réelle.
À une époque, il y a une fusée Ariane qui a été perdue, je ne sais plus laquelle, parce que son plan de vol fonctionnait sur un logiciel qui était basé sur des lois, des choses comme ça. Simplement, on avait oublié qu'à un moment donné, on sortait du domaine d'application. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Et la fusée a été perdue. Voilà, donc c'est une petite erreur de simulation ou de modèle qui coûte beaucoup d'argent. Donc il faut apprendre à ne pas avoir une confiance aveugle. Et je pense qu'il faut être tolérant vis-à-vis de nos amis météorologues et pas trop leur taper dessus parce que je pense que ce n'est pas un travail facile. Et en fait, les gens, je pense, attendent beaucoup de ça. Et ils tolèrent pas la notion d'incertitude. C'est quelque chose d'intolérable. On aimerait savoir si oui ou non on va attraper un cancer, on va développer un cancer, excusez-moi, ou toute autre maladie. On veut absolument savoir s'il va faire beau demain. On tolère pas cette notion d'incertitude et on pense que la science donne des faits. Voilà.
Paradoxalement, la science qui a beaucoup fait avancer l'être humain est aussi une leçon de modestie. Mais ça, on a beaucoup de mal à l'accepter.
Qui permet le développement des pseudosciences, des sectes, voilà, des choses comme ça.
Je voulais savoir, par exemple, pour le cas de la mécanique newtonienne, par exemple, on a réussi à démontrer ses limites, son domaine de validité. Est-ce que aujourd'hui c'est le cas pour la théorie du chaos ou est-ce que on est capable de dire non, il n'y a pas de limite dans son domaine de définition ou encore on le cherche et on ne l'a pas trouvé ?
Au niveau de la théorie, vous voulez dire ?
Oui, de la théorie, oui.
Non, je ne pense pas. Alors j'ignore combien actuellement de mathématiciens travaillent sur ce genre de choses, mais... En mathématiques, on a un horizon qui s'élargit. Il faut voir ça un petit peu comme une clairière, enfin une forêt qu'on défriche. Hein. Au fur et à mesure qu'on défriche, l'horizon s'élargit. Hein. Donc plus les mathématiciens, et d'ailleurs dans les autres sciences, je pense que c'est pareil, plus on découvre de choses, de plus en plus de questions se posent, et de plus en plus de problèmes, éventuellement, de plus en plus difficiles se posent. Et on ne peut pas dire que non, on a atteint une limite, non, certainement pas, non.
C'est toujours très dangereux de dire qu'on a atteint une limite. En 1895, on considérait que la physique était complètement terminée. En 1900 arrive le quantum, en 1905 arrive la relativité, et tout tombe à l'eau et on recommence.
C'est une bonne nouvelle, non ?
Pour les scientifiques. Peut-être le temps de prendre encore une question. Je vois. Non, tu veux...
Deux. Oui, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quasiment l'univers est presque quelque chose de chaos. Enfin, on a l'impression que, c'est un système chaotique, donc où il y a beaucoup de hasard, beaucoup de choses. Mais finalement, on a aussi beaucoup de systèmes. Dans ce chaos général, il y a quand même beaucoup de systèmes qui, eux, ne sont pas chaotiques. Donc, comment on peut expliquer qu'à partir d'un système global qui est chaotique, on obtient des microsystèmes qui, eux, fonctionnent d'une manière tout à fait avec des lois physiques prédictibles, enfin relativement prédictibles. Je ne sais pas, la Lune tourne autour de la Terre, c'est quand même un système périodique. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est dans tous les domaines, quoi.
Oui, je peux peut-être dire un mot là-dessus. Enfin, bon, effectivement, la physique statistique, le grand succès par exemple, de la théorie des gaz et la physique statistique a été de montrer qu'à partir de trajectoires éventuellement extrêmement complexes de particules de gaz en interaction, qui rebondissent, qui se collisionnent, etc., donc, pour lesquelles on n'est pas capable de connaître le devenir, en quelque sorte, si vous moyennez à grande échelle, vous êtes tout à fait capable de comprendre votre système tout à fait bien. Donc, c'est la thermodynamique, les lois de la thermodynamique fonctionnent extrêmement bien et ne montre aucun degré de non-prédicibilité. Donc on peut partir d'un système effectivement à petite échelle qui est extrêmement complexe et par moyenne d'ensemble, effectivement, quand vous avez moyenné sur des grands nombres, devient parfaitement prédicible. Heureusement, parce que sinon, effectivement, si ce n'était pas le cas, d'abord, on ne pourrait pas faire de science. Il faudrait décrire individuellement chacune des molécules, chacun des atomes de la matière pour arriver à faire une prédiction à l'échelle macroscopique. Heureusement, on n'en est pas là. Et donc, effectivement, il y a une cassure, en quelque sorte, hein. Heureusement, les effets à toute petite échelle ne se propagent pas toujours à grande échelle. Et la plupart du temps, ne le font pas. Donc, effectivement, l'apport de la théorie du chaos était de montrer qu'il existe des systèmes pour lesquels ce n'est pas vrai. La perturbation à petite échelle va se propager à grande échelle. Mais ce sont des cas d'école, quand même. Enfin, disons, c'est le fonctionnement normal d'un système est un système, effectivement, enfin, montre une certaine stabilité. Il a fallu quand même attendre, en gros, enfin bon, Henri Poincaré était passé au début du XXe siècle, hein, à la fin du XIXe, mais il a quand même fallu attendre, en gros, les années 1970 pour qu'on se rende compte, effectivement, de l'existence, effectivement, de ces systèmes et qu'il y a effectivement un effet de mode là-dessus. Mais le fait que ça arrive finalement si tard dans l'histoire de la physique, des mathématiques ou des sciences de manière générale montre que ça reste quand même, effectivement, un cas, enfin, une anomalie, je dirais.
C'est au niveau de l'heure, on est bon. Ouais. D'accord. Bon, alors je vais peut-être vous demander encore 5 minutes d'attention si vous voulez bien. J'aurais aimé évoquer avec vous les sujets suivants en fait qu'on pourrait aborder l'an prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des petites idées. Tout le monde étant concerné. Juste avant, quand même, je tiens vraiment à remercier tous les intervenants qui sont venus gracieusement et qui nous ont, je pense, apporté d'excellentes réponses sur beaucoup de questions qu'on se posait et avec des réponses de qualité. Voilà, merci beaucoup. Comment ? Ah oui, si vous voulez, oui. Là, on peut peut-être les dire rapidement si ça vient comme ça. Et puis... Oui ? Par contre, il faudrait les noter, par contre.
Il n'y a pas que le nord de la Sibérie, il y a tout l'Arctique. Hein, de manière...
Spécialement ? Ou réchauffement climatique en général ou c'est un peu trop... Non, ça c'est un peu trop... Le nouvel Eldorado. D'accord. Les opportunités, en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, simplement, on a eu, je ne sais pas si vous aviez pu venir, mais un café cette année sur les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, en fait, pour savoir s'il s'agissait d'une alternative. Donc, bien sûr, C'est un petit peu dans le thème. Après, c'est vrai que les énergies fossiles en particulier, on est... enfin, c'est à contrario, en fait. Hein. C'est ce qui va disparaître. Donc, il va falloir évidemment se poser la question. Quoi. Ou pas, tout à fait. Ouais, c'est la question qui se pose. Ouais. Ouais.
On parle beaucoup des énergies fossiles, ouais. Mais des énergies renouvelables. Mais mine de rien, l'homme continue à exploiter massivement les énergies fossiles.
Tout à fait.
Et ça reste quand même... ça fait partie du quotidien de l'humanité. Quoi. Voilà.
Mine de rien, c'est le cas de le dire.
Oui.
La bionique, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, oui, bien sûr, d'accord. D'accord. Oui, oui. Oui.
J'aurais un sujet, moi, sur les comportements humains, pardon. Oui. Notamment sur l'intuition où certaines personnes, par exemple, peuvent prendre une décision en moins de 3 secondes et qui est autant, enfin, d'autant plus valable qu'une décision qui est prise sur à long terme avec des preuves enfin, scientifiques, etc.
Sur l'intuition, en fait.
Voilà, sur ouais. L'intuition, surtout. Ouais.
Tout à fait.
Ça serait peut-être intéressant aussi de parler de l'influence, l'impact des grandes découvertes sur la science. C'est un petit peu d'actualité. Là, il y a quelques mois, on a découvert le boson de Higgs. Et là, il y a encore plus récemment, on aurait vu l'univers dans ses tout premiers balbutiements. Je pensais que chez les physiciens, chez les astrophysiciens et tout ça, ça allait être la fête un peu partout, tout autour du monde. Bon, pour l'instant, oui. Il semble un peu plus modéré. Donc, est-ce que finalement, les grandes découvertes sont si importantes que ça ou est-ce que c'est une évolution de la connaissance tout au fil des décennies, au fil des siècles ?
Sur les faits marquants en histoire des sciences, en fait. Ouais, d'accord. Ah, oui, c'est la chasse aux pseudosciences, c'est ça?
C'est ça, oui. L'art du doute, les manipulations dans tous les domaines et tout ça. Et c'est Richard Monvoisin qui est un des dirigeants du laboratoire. Et je trouve que c'est absolument passionnant et on pourrait peut-être le faire venir avec d'autres personnes et faire une soirée sur le domaine des manipulations, peut-être plus dans le domaine scientifique. Dieu sait s'il y en a eu, ça pourrait être extrêmement intéressant.
Et sujet à débat. Bon, je vous remercie pour les réactions. Elisabeth, oui.
Excusez-moi. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, toutes ces idées. Après, on ne va pas pouvoir forcément tout traiter. On ne peut pas s'engager sur... Enfin, on va devoir choisir quelque chose. Hein.
Oui, oui. Oui, on vous remercie pour les idées. Après, pour nous, la difficulté, bien entendu, de trouver des spécialistes qui sont capables de répondre, qui ne sont pas trop loin, parce qu'on a un budget qui est quand même limité. Par exemple, pour ce soir, on a essayé de trouver quelqu'un qui, en effet, puisse parler du chaos en économie. Mais les spécialistes sont tous à Paris. Donc, faire venir un spécialiste, lui payer le train, une nuit d'hôtel, enfin, ça fait exploser notre budget. Là, sur ce que vous nous avez dit, il y a quand même... oui, quand je pense au nouvel Eldorado, enfin, Sibérie, le Nord, les pôles, etc., où la glace fond, là, sur place, il y a beaucoup de gens qui peuvent... sur place, ici même à Chambéry, ou un peu plus loin, Annecy, Grenoble, etc., on peut trouver bon nombre de personnes qui peuvent répondre. Énergie fossile aussi. Juste un petit mot sur la zététique. Un des fondateurs de notre association était un zététicien, comme on dit, dans l'environnement grenoblois à l'époque. Donc ça aussi, en effet, une bonne idée. Et juste aussi une autre question. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'une fois sur trois, maintenant, on organise une séance cinéma un petit peu comme les émissions de télévision hein, d'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, les dossiers de l'écran où il y a séance cinéma, puis un petit débat ensuite. C'est une de nos difficultés, on n'a pas le choix, enfin on n'a pas un grand choix des films, hein. C'est le propriétaire du cinéma qui essaye de les trouver. On a du mal aussi à les connaître à l'avance. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas inscrits dans le programme. Et lui aussi, oui, bien sûr. en particulier les films dont il dispose. Il y a une nouvelle liste qui paraît au 1er janvier, donc on ne peut pas prévoir à plus de 3 mois. Donc on n'est pas dans le chaos, mais dans la du mal à les organiser. D'accord. Oui, pardon.
La montagne en pleine mutation, c'est-à-dire à la fois par rapport au changement climatique, la désertification dans le sens où on l'entend plutôt sous le coup de l'exode rural, et puis les nouveaux usages de la montagne, le tourisme, tout ça.
J'ai un thème qui me vient à l'esprit aussi, qui pourrait intéresser l'Assemblée, c'est l'imagerie médicale. C'est un domaine qui a énormément progressé ces dernières années. Et s'il pouvait y avoir des spécialistes qui puissent nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui à déceler, à voir avec ces nouveaux équipements. Il y a énormément de progrès dans ce domaine.
Bon, bah, je crois. Je vous remercie encore pour vos. Oui.
Chambéry organise des visites du centre d'imagerie et de traitement de médecine nucléaire, où vous avez la possibilité de voir tous les instruments qu'ils ont maintenant et qui permettent. Il y a PET scan, tout ça. Donc vous pouvez voir tout. Donc ça, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Voilà, au moment de la fête de la science. Ouais.
Bon, eh bien, je vous remercie. Passez une bonne soirée. Et puis, revenez nous voir l'an prochain. Au revoir.